Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître, ni publicité de la Fédération anarchiste. Aujourd'hui, les cailloux dans l'engrenage, c'est l'émission hybride numéro 23. Nous sommes le 29 juillet 2026, c'est Florence au micro. Et je suis triste parce que Monsieur Blues est mort, là, il y a quelques jours. Et Monsieur Blues, sur Radio Libertaire, c'était Thierry Poré. Et j'ai demandé à un de ses amis de Radio Libertaire quels étaient ses deux bluesmen ou women préférés. Et il m'a répondu, c'était Big Mama Thornton et Memphis Minnie. Alors, nous venons d'entendre... En hommage à Thierry Poré qui nous a fait passer des très bons moments à la librairie Publico où il nous passait des films de blues et j'essayais d'en rater le moins possible. C'était vraiment... Bon, je suis triste. Le blues, moi j'adore le blues autant que la musique classique et que le jazz et que la chanson française. Mais le blues, c'est peut-être ce qui me prend le plus au trip. Donc c'était Big Mama Thornton, en hommage à Monsieur Blues, Thierry Poré. Aujourd'hui, eh bien, l'émission est autour de Bernard Clavel, 1923-2010, et autour surtout d'un livre qui s'appelle « Bernard Clavel » par Michel Ragon. Michel Ragon, c'est l'auteur de ce petit bouquin qui est dans la collection Écrivain des éditions Segers et qui a été rédigé, qui est paru en 1975. C'est ancien, mais c'est franchement intéressant et c'est la collection Écrivain d'hier et d'aujourd'hui. Bien, j'ai fait un résumé de la présentation par Michel Ragon de Bernard Clavel, résumé entre les pages 5 et 74. J'en ai fait une page et demie, plus une demi-page de réflexion personnelle. Eh bien, voilà comment Michel Ragon parlait de Bernard Clavel en 1975, c'est-à-dire c'était quand même un certain temps avant sa mort. Le franc-comtois Bernard Clavel naquit en 1923 à Lons-le-Saunier d'un père boulanger. Et ce que dit Ragon, ouvrier costaud, gymnase émérite, c'est page 36, et d'une mère fleuriste. Il fut l'un des rares écrivains anciens travailleurs manuels. Mort à 87 ans. En 2010, à Chambéry, en Savoie, Clavel avait 57 ans quand parut le livre que Michel Ragon lui consacra chez Segers en 1975. Clavel était célèbre depuis l'apparition en 1968 de son roman « Les fruits de l'hiver » qui lui valut le prix Goncourt de littérature à l'âge de 45 ans. Il s'en est réjoui sans chercher à paraître et a pu acheter une maison à Château-Chalon. Sa célébrité lui a permis de rentrer dans toutes les chaumières, d'être lu et compris par tout le monde, surtout par qui a vécu, au travail, la peine, la sueur et le sang. Ses histoires devaient très peu à l'imagination. Autobiographiques, elles sont bien en deçà de la réalité, tant il a subi au travail les injures et l'ironie. Apprenti pâtissier, il fut très maltraité. L'adolescent insouciant et fugueur fut également plongé dans les drames de la guerre. Il était un écrivain ruraliste et prolétarien, populaire et provincial. Pour lui, l'une des recettes du roman populaire était de raconter une histoire en créant des passages inoubliables. Le Jura de son enfance l'a immergé dans l'univers du bois qu'il célèbre. Souvenir des énormes bûches des camions forestiers. Clavel affectionnait la nature et les objets du quotidien, la matière et l'outil, la pâte et le pétrin, la terre et la charrue, le bois et la varlope, la peinture et le pinceau, le papier et la plume. Il écrivait pour les personnes sensibles à la belle ouvrage, c'est écrit page 15, et à l'amour du métier manuel malgré ses servitudes. L'artisan est le dernier ouvrier libre, même si le petit patron, paternaliste avec l'apprenti, peut être pire qu'un grand patron. Et là, je cite Ragon, page 19. Il est aussi stupide de refuser d'admettre certains bienfaits du machinisme que de s'illusionner sur un progressisme qui pourrait bien être aussi une des formes les plus insidieuses de l'aliénation moderne. Et le succès de Clavel vient sans doute encore de ce que la classe ouvrière est moins facile à berner que le progressisme dont on lui rabat les oreilles lui paraît une moderne carotte dont elle refuse d'être l'âne éternel. » Fin de citation. Clavel était un grand sportif. Et Ragon dit « Il aime vaincre », c'est page 20. Depuis l'adolescence, passionné de boxe qu'il pratiquait, ainsi que l'haltérophilie, le judo, les sports nautiques. Fait rare dans la littérature française, le prolétaire boxeur amateur devient boxeur de fête foraine. Et Ragon pense à Jack London. Ragon pointe que, je cite page 21, « les muscles se retrouvent dans tous les romans de Clavel ». Fin de citation. Les personnages masculins, sous-entendu masculin, sont musclés. Ragon, qui note l'admiration du muscle chez Clavel, a sélectionné des passages de, page 111, je cite, « L'éloge du muscle », c'est le titre d'un chapitre, dans l'Hercule sur la place, page 166. Clavel dut, et je cite encore, page 21, « dans une période particulièrement noire, gagner sa vie comme baron des baraques foraines, c'est lui qui attrapait le gant du défi. » Fin de citation. Eh bien, une petite pause pour contrebalancer les muscles masculins. J'ai choisi un disque des Ballades des Belles Rebelles, les poétesses de la Renaissance, dite et chantée par Chantal Grimm. Et là, c'est un anonyme qui s'appelle « Ballade de la fugitive ».
Si l'on peut ouïr ma complainte et le mal dont je suis atteinte, je vous pouvais bien réciter. Mon Dieu, que je serais heureuse si en voix forte et douloureuse je savais le tout raconter. Premièrement, je fus battue de mon mari, puis mal voulu, on sait que suis de ses parents. Pour m'excuser donc, mesdames, de tout forfait et de tout blâme, ne sont-ce pas faits apparents. Ce n'est pas chose raisonnable d'avoir un mari maltraitable, plein de mauvaises affections, et qu'une femme bien vivante soit sujette comme servante d'endurer sa complexion. Il n'y a femme si constante, comme je crois, qui fut contente qu'on la tourmenta sans raison, ou bien qui par son entreprise, sans en penser être reprise, soudain ne quitta sa maison. J'aime bien mieux m'en être allée, non point comme femme à voler, cherchant ça et là son plaisir, qu'avec lui en oise vivre, ne pouvant sa volonté suivre et lui engendrer des plaisirs. Mesdames, de vous les aucunes ont contre moi grande rancune et m'allèguent quelques faux faits. Mais à toutes je vous pardonne et mon honneur vous abandonne, sans vous avoir jamais forfait. si j'ai failli, je suis certaine que je n'en mérite la peine, ni blâme aucun, car qui pourrait considérer et bien entendre l'origine dont peut descendre la mienne fuite, il se tairait.
Radio Libertaire, des cailloux dans l'engrenage, l'enfance poil à gratter, émission hybride du 5e mercredi du mois de 14 à 16 heures. Et nous parlons de Clavel, vu par Michel Ragon en 1975. Clavel était un militant. Il défendait l'agriculture biologique en s'opposant aux pesticides. Il s'investissait pour la reconnaissance de la chiropractie, pratique tolérée en France et qui l'a guérie. C'est écrit page 34. Alors, la chiropractie, c'est une technique manipulatoire à l'origine s'appuyant sur le vitalisme. C'est non reconnu en France et ça vise à soulager les troubles musculo-squelettiques, particulièrement de la colonne vertébrale et du bassin, et c'est souvent dû à une pratique physique intensive chez les sportifs ou quelquefois aussi chez certains musiciens professionnels. Clavel était surtout un pacifiste intégral qui luttait contre la peine de mort et en faveur des objecteurs de conscience. Il vint en aide aux réfugiés du Bangladesh et au secours des enfants victimes des guerres et de la faim. Son roman « L'Espagnol » était le drame du travailleur immigré. Clavel considérait que, pour les fils du peuple, l'armée, surtout la coloniale, apparaissait comme l'évasion d'une vie sans espoir et comme une sécurité matérielle. Même si la mort est partout, et je cite page 73, c'est un grand amour de la vie qu'exprime l'œuvre de Bernard Clavel, un amour de la terre, du métier, des outils et des muscles. Pour le regard actuel, les textes purement journalistiques militants vieillissent. Ça, c'est Ragon qui le dit, hein. C'était déjà en 1975. Le contexte est oublié, même si les situations de fond perdurent. De nouveaux massacres supplantent et enfouissent les précédents. À l'inverse, la fiction porte au-delà du temps le message sous-jacent qui n'est pas figé dans une époque révolue. En 1949, naissance du troisième fils de Clavel. Il écrivit un premier roman en autodidacte qu'il détruira plus tard. Afin de ne pas disperser ses forces, il abandonna à regret la peinture et la sculpture dont il aimait l'aspect manuel et artisanal. Le papier et la plume ne pouvant remplacer la trituration de la matière ni l'odeur de l'huile mélangée aux pigments. Et je cite, page 47, « Écrire n'est qu'une activité intellectuelle ». Fin de citation. Bien que soutenu par sa femme, il se considérait comme un peintre raté, puis il dessina pour son plaisir sans rien montrer. Clavel, écrivain, croqua, je cite, page 48, de nombreux portraits de femmes soumises, plus ou moins maltraitées. C'est pour ça là que j'ai passé cette balade de la Renaissance il y a une minute. Si la fille de la campagne est pervertie par la ville, la fille perdue se régénère au contact de la nature. En 1962, un article de l'Express remarquait que les romans du travail sont inhabituels et que Clavel, là je cite l'Express, écrit de façon passionnante des choses vraies sur des gens qui ne lisent pas, fin de citation de l'Express. Or, c'est une erreur bourgeoise, car les prolétaires rirent. Lisent. Et puis là, moi je me demande, est-ce que tous les bourgeois lisent? Bon, fin de la parenthèse. En 1967, Clavel entama une œuvre à destination de la jeunesse. Fait rare à l'époque de la part des grands écrivains, il voulait raconter aux enfants une histoire afin que celle-ci leur apprenne à aimer un métier, à respecter la nature. Dans « Victoire au Mans » en 1968, un homme découvre, et là je cite page 68, « un métier, une amitié née de l'effort, des joies, des angoisses et des espoirs partagés ». Fin de citation. En 1974, il déclara dans École ouverte qu'écrire pour les enfants est le plus périlleux. Il s'agit de rechercher sa propre enfance et de retrouver ses propres sources d'émerveillement. Et là, je cite Clavel, qui est cité par Ragon. « Il est faux et dangereux de prétendre que seule la violence attire les enfants. C'est là une invention de faible, écrit Clavel, alors que l'enfant accueille volontiers les héros pleins de bonté qu'il aime, que triomphe l'amitié, le bon sens, la justice. » Fin de citation de Clavel. Il appartient à l'adulte de faire que la part de violence enfantine, et là je recite Clavel, page 68, soit un jour submergée par l'amour. Apprendre l'amour du métier, le respect de la nature et des animaux est aussi pour les enfants une façon, et là je cite page 69, une façon de détourner leur violence naturelle sur la camaraderie virile du sport. Vous avez bien entendu, tout à l'heure, il parle d'invention des faibles, camaraderie virile du sport. Bon, relecture un demi-siècle plus tard, nous sommes en 2026. Et là, c'est moi qui vous fais part de quelques réflexions. La présentation de Bernard Clavel par Michel Ragon est dense. Il a choisi 18 nouvelles regroupées en 7 thèmes illustrant son propos. Le travail, 2. Présence des objets, 3. Éloge du muscle, 4. La guerre et la faim, 5. Le pacifisme, 6. Le militant, 7. Le métier d'écrivain. Ragon a commenté la production de Clavel à un temps T de sa vie. Clavel avait 52 ans. Depuis, l'œuvre de Clavel a évolué et s'est enrichie grandement. Il lui restait 35 ans à vivre, mais seulement 28 ans d'écriture. Souvenons-nous que Clavel vécut à une époque très machiste. Il était le fils de son temps. Il est un peu oublié au début de ce quart du XXIe siècle où s'installe le totalitarisme numérique, quand l'humain perd la main forte autant sur l'environnement, c'est-à-dire la nature chère à Clavel, que sur la ravageuse toute-puissance technologique, c'est-à-dire l'évolution de ce que Clavel appelle la machine. Replacer au grand jour l'artisan Clavel est salutaire, sans omettre sa féconde production pour les enfants. Parmi ses nombreux contes, l'arbre qui chante célèbre le bois que l'artisan transfigure en violon. Cet album m'a émue, moi, la petite fille d'un menuisier ébéniste. Et bien sûr, je vais vous le lire parce que je l'ai depuis des années. J'y reviendrai dans un article consacré aux albums de Clavel pour la jeunesse, dont la plupart sont postérieures à 75. Ces remarques sont celles d'une femme à l'aune de 2026, frappée voire rebutée par l'admiration de la musculature masculine dont la description dans l'Hercule de Foire me semble proche d'un désir homosexuel refoulé. Et ça, ce que je dis là, ça ne plaît pas, je ne comprends pas qu'il y ait des hommes anarchistes maintenant qui se sentent un peu blessés par ça. C'est mon ressenti. Je ne suis pas la seule à l'avoir ressenti. Bon, ça, c'est une aparté. La pratique sportive intensive de Clavel lui a probablement causé de fortes douleurs, d'où son intérêt pour la chiropractie. Après, explique Ragon, l'échec des traitements par différents médecins. Entre la virilité costaude et la femme maltraitée, j'ai pensé au film de Fellini, La Strada, avec Giulietta Masina. Cette fascination pour le muscle qu'avait déjà repéré Ragon doit être relue avec un recul critique 50 ans plus tard, quand l'extrême violence du courant masculiniste décomplexé refait surface, sans vergogne ni limite, dans tous les milieux sociaux, les classes prolétariennes, moyennes ou grandes bourgeoises. Voilà, j'ai fini mon résumé et mes remarques personnelles. Nous sommes sur Radio Libertaire 89.4, des cailloux dans l'engrenage, l'enfance poil à gratter, le cinquième mercredi du mois, c'est-à-dire une émission hybride où je mêle enfants, adultes. Et c'est la 23e émission. Et nous allons donc écouter Marguerite de Navarre. C'était une belle rebelle de la Renaissance.
L'instant malheureuse je suis, que mon malheur dire ne puis, sinon qu'il est sans espérance, désespoir. A rendu si faible mon corps qu'il n'a ni vertu ni puissance. Il est semblable à l'un des morts tant que le voyant par dehors on perd de lui la connaissance. Je n'ai plus que la triste voix de la
Radio Libertaire, des cailloux dans l'engrenage, émission hybride du cinquième mercredi du mois, 29 juillet 1926. Vous êtes sur 89.4 et nous écoutons Clavel, Bernard Clavel. Et là, c'est toujours extrait de ce bouquin par Michel Ragon. Je l'ai trouvé à la réserve centrale des bibliothèques parisiennes. C'est très facile de se procurer ça. Et voici un extrait que Ragon a choisi. Le métier d'écrivain, écrire, c'est se vider sa vie. Ça, c'est Clavel qui le dit. Et je vais vous lire ce texte de Clavel. Mon métier est de ceux où l'on demeure toute sa vie apprenti, et ce n'est jamais sans angoisse que j'accepte d'en parler. Chaque minute passée devant la page blanche, chaque ligne écrite, chaque feuille à tourner, autant de batailles dont nul ne saurait dire si l'écrivain sort vainqueur ou vaincu. Toute œuvre littéraire est un mur à monter, mais les pierres et le mortier du langage sont des matériaux plus vivants encore que le granit, le sable et la chaux. Si chaque pierre posée appelle la suivante, elle ne la désigne pas. C'est à peine si elle lui ménage une place, mais encore faudra-t-il au maçon énormément d'adresse et un sens parfait de l'équilibre s'il veut que, du même coup, chaque pierre épouse sa place et accepte la suivante. élevé par étapes, le mur s'achève à la mort du maçon, qui ne saura jamais rien, ni de sa fonction, ni de la place qu'il occupe dans l'espace et le temps. Écrire, c'est se vider de sa vie. C'est perdre sa sève, c'est s'appauvrir sans cesse et sans jamais aucune certitude que ce que nous donnons profitera à l'autre. Parce que le langage immensément riche nous échappe souvent, parce qu'il s'use davantage qu'il ne se renouvelle, notre seule réserve de force est dans nos sentiments. La vraie matière demeure la vie, et particulièrement celle que nous prenons, celle que nous prenons. Les mots sont là pour donner à nos émotions une chance de passer ce fossé qui nous sépare de notre public. Mais encore devons-nous éviter les pièges qu'ils nous tendent et les considérer non point comme des serviteurs aveugles, mais comme d'éternels révoltés. Ainsi, acceptant de donner ce que nous possédons de plus précieux, devons-nous le faire avec les plus grandes chances d'être entendus par le plus grand nombre ? À cela, ceux qui rejettent les œuvres de sentiment pour ne s'attacher qu'à la recherche formelle répondront qu'il est vain de se soucier du public et que c'est seulement pour soi que l'on écrit. N'appartenant pas à cette famille de créateurs, je placerai plutôt en tête de mes propres raisons d'écrire le besoin et la volonté d'échapper à ma solitude en faisant partager mes propres émotions. Écrire, c'est communiquer. Écrire pour être lu, c'est aussi se donner, si mince soit-il, un espoir de survie. Ce n'est pas manquer de modestie que de le reconnaître, mais c'est s'avouer du même coup son attachement à l'existence et à sa volonté de compenser le risque d'autodestruction par l'espérance qu'une part de ce qui est donné de vie animera d'autres êtres. Je n'ai jamais écrit qu'avec la volonté de permettre à des personnages de trouver en mes livres quelques heures d'existence. Et parce que ces personnages ne sont pas des êtres d'exception, il m'a toujours paru naturel qu'ils puissent être rejoints par leurs semblables. Je sais qu'il n'existe aucune recette d'écriture, que les règles que nous nous imposons aujourd'hui nous paraîtront dérisoires demain. Mais il est un mot que je n'ai jamais accepté de détourner de mon Il est un mot dont je n'ai jamais accepté de détourner mon regard. C'est en fonction de ce qu'il m'impose que j'aborde tous les autres. Ce mot, méprisé par certains, a dicté sa loi à de nombreux auteurs. Je l'ai retrouvé chez deux grands écrivains de caractères fort différents, mais qui se rejoignent à travers le cristal limpide dont il est constitué. C'est le mot clarté. La clarté, dit Jules Renard, est la politesse de l'homme de lettres. Pour sa part, Roger Martin Dugard écrit, il est un minimum de clarté qui est une forme de politesse. Choisir un mot, c'est avant tout s'efforcer de cueillir le plus juste, celui qui correspond le mieux à ce que l'on veut exprimer, mais c'est aussi lorsqu'il s'en présente plusieurs qui se disputent un même rôle, donner la priorité au plus simple. Et c'est peut-être l'une des plus grandes difficultés de ce métier d'écrivain. Le mot juste est forcément celui qui appartient au vocabulaire des personnages d'un roman. Si je raconte l'histoire d'un boulanger, c'est avant tout son vocabulaire, c'est-à-dire celui de sa condition et de son métier que je dois m'imposer d'employer. Est-ce à dire que je risque de limiter mon langage au point qu'il paraisse d'une extrême pauvreté ? Au contraire, vivant d'une besogne en compagnie d'un personnage, je vais découvrir avec lui les termes qui sont liés à ses gestes. Et cette découverte est déjà pour moi une récompense. Et ce seront alors les gestes du travail qui donneront au lecteur étranger à ce milieu la définition des mots. Il y a ainsi tout un vocabulaire de la vie extrêmement coloré, extrêmement parlant, souvent sonore et qui peut donner à un texte cet accent de vérité et ce rythme qui sont les éléments d'une véritable animation. Chaque mot devient alors personnage puisqu'il participe directement à l'action, puisqu'il donne du caractère à ce qu'il faut bien appeler le style. Le langage est une question de culture. C'est là une vérité que je me garderais d'énoncer si l'expérience ne m'avait enseigné qu'elle est moins simple qu'il n'y paraît. Pour avoir quitté l'école à l'âge où la plupart de ceux qui désirent écrire commencent leurs véritables études, j'ai cru longtemps qu'il me manquerait toujours l'essentiel. Certes, je suis loin d'avoir rattrapé mon retard. Dans bien des domaines, je suis moins instruit qu'un lycéen moyen, mais j'ai découvert que mes maîtres furent des gens qui pratiquaient une langue qui doit très peu à l'école. Ces maîtres-là, ce que l'on peut appeler des gens de métier, c'est ce qu'ils étaient. Ils avaient leur vocabulaire au creux de la main et sa richesse ne leur apparaissait pas. C'était pour eux quelque chose de naturel. Ils en usaient comme de ces outils qui leur permettaient de gagner leur pain. Artisans, compagnons, gens de la terre, du bois, du feu, de l'eau, des forêts, des vignobles, des plaines et des coteaux. Ils se comprenaient fort bien. Et pourtant, chacun d'eux parlait une langue où fleurissaient des expressions, des tournures de phrases, des mots très particuliers. Mais il y avait entre eux, entre tous, ce lien de la matière, de la peine et des joies que seuls connaissent les vrais amoureux. Ces gens-là aimaient leur besogne et c'est, je crois, ce qu'ils m'ont enseigné de plus précieux. Je vais faire une petite pause musicale avec toujours les poétesses de la Renaissance et là, c'est une anonyme.
La fille qui n'a point d'amis, comment vit-elle? Elle ne dort de jour ni de nuit, mais toujours veille. Ce fait amour qui la réveille et qui la garde de dormir. Dormir, dormir, dormir. À qui dit-elle sa pensée, la fille qui n'a point d'amis? Il y en a qui en ont deux, deux, trois ou quatre. Moi, je n'en ai pas un tout seul pour moi et battre. Hélas, mon joli temps se passe, mon téton commence à mollir. À qui dit-elle sa pensée, la fille qui n'a point d'amis? Ami, 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 ami. J'ai le vouloir si très humain et tel courage qu'aujourd'hui plutôt que demain, en mon jeune âge, j'aimerais mieux mourir de rage que de vivre en un tel ennui. Ennui, ennui, ennui. À qui dit-elle sa pensée, la fille qui n'a point d'amis? Amis, ami. la fille qui n'a point d'amis, comment vit-elle? Elle ne dort de jour ni de nuit, mais toujours veille. Ce fait amour qui la réveille et qui la garde de dormir. Dormir, dormir, dormir. Dormir.
Radio Libertaire, des cailloux dans l'engrenage, l'enfance, poil à gratter, émission hybride du cinquième mercredi du mois, c'est-à-dire pour tous les âges. Et nous lisons un texte de Clavel que personnellement j'aime beaucoup sur le métier d'écrivain qui s'appelle « Écrire, c'est se vider la vie » et c'est un des textes que propose Ragon dans son petit bouquin sur Clavel. Alors j'en étais où ces gens-là aimaient leur besogne et c'est, je crois, ce qu'ils m'ont enseigné de plus précieux. C'est là où j'en étais. Pour avoir durant ces années, partager leur existence pour avoir accompli en leur compagnie des gestes qui sont liés à la vie de la nature et de l'homme, j'ai compris qu'on ne saurait être heureux sans amour et que l'amour peut naître à chaque minute qui coule, car c'est être bêtement orgueilleux que de se croire supérieur parce que l'on écrit. Il y a mille formes de création et rien ne dit que celles qui sont considérées comme des arts soient supérieures aux autres. Il y a quelques semaines à peine, poussée par le désir de retrouver un peu de mon adolescence, je suis allée vivre quelques nuits chez un boulanger qui travaille encore comme mon père m'avait appris à le faire. Je ne raconterai pas ici ce que furent ces heures d'une extrême richesse, mais je dirai seulement qu'elles m'ont amené une fois de plus à me demander s'il est plus important d'écrire des livres que de pétrir et de cuire du pain. Le pain sera mangé et digéré, les livres seront lus et oubliés. Ce que je voudrais, c'est quitter cette terre avec la certitude d'avoir accompli ma tâche aussi bien que mon père avait accompli la sienne, lui qui a passé les trois quarts de son existence à pétrir du pain. Mon père est mort depuis plus de 20 ans et il avait quitté sa boulangerie longtemps avant de s'éteindre. Cependant, il arrive encore que des gens me parlent du pain qu'il leur livrait. Toute œuvre peut être un prolongement à condition qu'elle soit honnête et saine. Lorsque j'ai abandonné ce métier pour un autre, puis cet autre pour un autre encore, ceux qui m'aimaient se sont effrayés de ce qu'ils appelaient mon instabilité. Sans doute avaient-ils raison, car j'ignorais encore ce que je cherchais ainsi. Si je l'avais pressenti, si j'avais dit à mon père que j'étais à la recherche d'une farine à pétrir, sans doute eût-il pensé que je me moquais de lui, et pourtant, je sais aujourd'hui que cette farine était ce que nous appelons le langage. C'est vrai, et je le dis avec une certaine fierté, j'essaye d'être un artisan honnête. Je m'efforce de respecter la matière que j'utilise. Je lui porte le même amour que mon père portait au blé, que Vincent Don, le vieux luthier de mon enfance, portait au bois, que les paysans avec lesquels j'ai partagé la peine et le pain de mon ami, l'Espagnol, portaient à la terre, que le seigneur du fleuve portait au Rhône. Aimez les mots, disait Anatole France. Citation d'Anatole France, on n'est écrivain qu'à ce prix. Fin de citation. J'en suis convaincue, mais j'ajouterais que cet amour serait inutile s'il n'était accompagné d'un grand amour de la vie. Faire du pain sans penser à ceux qui le mangeront, construire une maison sans se soucier de ceux qui l'habiteront, c'est se priver du bonheur de créer, c'est travailler uniquement pour de l'argent, et c'est s'engager dans le sentier qui conduit de la condition d'homme à l'état de machine. Si je devais écrire sans ce double amour de la vie et du langage, je pense que j'abandonnerais très vite la page blanche. Ce qu'a de merveilleux le langage, c'est qu'il évolue avec le temps et s'adapte à chaque sujet. Il est une matière noble, mais je ne suis pas certain qu'il ait autant de noblesse que le bois, le fer ou la pierre, parce qu'il accepte plus volontiers les apports extérieurs. Il est davantage comparable à un alliage qu'à ces matériaux tout d'une pièce et qui, incontestablement, ont davantage de caractère. Je ne suis pas venue à l'écriture par amour des mots, mais par désir d'exprimer des émotions et par besoin de communiquer. Mon premier moyen d'expression fut la peinture. Si j'ai délaissé la toile vierge pour la plage blanche, la page blanche, pas la plage, c'est surtout parce qu'il m'est apparu que le langage écrit permet d'espérer une communication plus directe, sans équivoque, et des échanges beaucoup plus précis. C'est également que la peinture est le plus difficile de tous les arts. Exprimer une émotion au seul moyen d'une surface recouverte de couleurs, faire que cette émotion passe à coup sûr, me parut très vite une tâche bien au-dessus de mes forces. Ce sont donc les mots qui, pour moi, ont remplacé les couleurs, mais je conserve de la palette une certaine nostalgie. Car la peinture sortant du tube, les mélanges sur la palette, la brosse ou le couteau sur la toile sont des éléments qui font naître une jouissance. Le crissement de la plume courant sur le papier procure aussi certaines joies, mais beaucoup plus monotones. Le travail est différent. On ne mélange pas les mots comme on fait les couleurs. Les demi-teintes, les valeurs s'obtiennent par des juxtapositions, des ajouts. Elles viennent du choix. Mais bien qu'il y ait des milliers de mots et trois couleurs seulement, c'est le peintre qui dispose de la gamme la plus étendue. Mais la peinture est l'art du coup de poing au creux de l'estomac, avec sa palette aux richesses illimitées. Le peintre est tenu de tout dire en un instant. Si l'émotion ne nous saisit pas à la gorge dès le premier contact, c'est que la toile ne nous touchera jamais comme elle devrait le faire. Le romancier dispose d'autant de pages qu'il veut pour nous émouvoir. Il nous entraîne avec lui tout au long d'une aventure où il peut dérouler le fil de plusieurs vies. C'est également cette aventure qui m'a tentée. Et parce que j'ai la passion de la matière, parce que je suis curieux de celle que j'emploie, lorsque j'écris mon premier roman, j'ai passé plus de 6 mois à reprendre le manuscrit mot à mot, consultant plusieurs dictionnaires, interrogeant Becherel, etc., et quelques autres dont les œuvres ne me quittent jamais. Ces gens-là ont été mes seconds maîtres, mais je crois que leur rôle est beaucoup moins important que celui des premiers que j'évoquais plus haut. Après cette expérience, après avoir détruit ce manuscrit, j'ai compris que le véritable amour des mots est beaucoup plus naturel et qu'il emprunte un chemin plus simple. Cependant, je reste un amoureux des dictionnaires, que je regarde un peu comme un ébénisme. Un ébéniste contemple sa réserve de bois. Je sais que l'ébène y voisine avec le frêne et le hêtre. S'il m'en faut un jour un morceau pour donner du relief à une pièce de marqueterie, j'irai le chercher. Mais je n'oublie pas que c'est en bois moins rare que se construit le gros de l'œuvre. Et comme j'ai le sentiment de faire plutôt des meubles rustiques, je m'efforce d'employer le bois rude et sain de mon pays. Il n'en reste pas moins que je suis incapable d'ouvrir un dictionnaire sans y passer une demi-heure embarquée malgré moi en une promenade où chaque pas ménage une découverte. C'est que les mots sont incorrigibles, bavards. Dès que vous les abordez, ils se mettent à raconter, à traverser un dictionnaire. Et traverser un dictionnaire est aussi difficile que de parcourir un marché dans une petite ville où tout le monde vous connaît. Difficile, mais combien enrichissant. Car l'aventure est au cœur de chaque mot, comme elle est au cœur de l'homme. Et il est merveilleux qu'écrire soit une aventure de chaque instant, même si elle comporte des risques, même s'il nous arrive de mettre en jeu ce que nous possédons de plus précieux. Voilà, il a écrit ça dans, ça c'est Clavel, c'est un très beau texte de Clavel, qui a écrit ça dans Vie et langage, chez Larousse en mars 1973. Et bien maintenant, encore une ballade des belles rebelles. Le numéro 9, la plume. Ah bah oui, la plume, bien sûr.
Nos parents ont de louables coutumes pour nous ôter l'usage de raison, de nous tenir closes dans la maison et nous donner le fuseau pour la plume. Traçant nos pas selon la destinée, on nous promet liberté et plaisir. Et nous payons l'obstiné déplaisir, ployant le dos sous les lois d'Hyménée. Il faut soudain que nous changions l'office qui nous pouvait quelque peu façonner, où les maris ne nous feront sonner que d'obéir, de soin et d'avarice. Les plus beaux jours de nos vertes années semblent les fleurs d'un printemps gracieux, pressés d'orage et de vents pluvieux, qui vont borner leur course terminée. Aux temps heureux de ma saison passée, j'avais bien l'aile unie à mon côté, mais en perdant ma jeune liberté, avant le vol, ma plume fut cassée.
Radio Libertaire, des cailloux dans l'engrenage, l'enfance poil à gratter, émission hybride numéro 23, autour de Bernard Clavel, vu par Michel Ragon. Et bien maintenant, ça va être l'heure des enfants. Parce que, oui, si moi j'avais lu il y a des années deux livres pour adultes de Bernard Clavel, un que je n'avais pas vraiment apprécié, mais à la taverne, je l'ai relu là récemment et je m'en suis souvenue, je l'avais oublié. Et puis il y a beaucoup de ces muscles-là, c'est que vraiment je suis rétive à ça. Et j'avais beaucoup, beaucoup aimé L'Espagnol, paru en 59. Et je l'ai relu avec un grand plaisir. J'avais lu aussi La Maison des Autres, alors là, Miserere, La Retraite au Flambeau. Là, alors ça, c'est ce que j'ai lu récemment. La Maison des Autres, Miserere, La Retraite au Flambeau, La Table du Roi, Contes et légendes du Bordelais, qui sont une ode au vin et qui méprisent un peu les buveurs d'eau. Et ça, c'est pour les adultes et on trouve ça dans un rayon jeunesse. Ça, c'est une erreur des bibliothécaires. Et puis, La Bourrelle. Voilà, donc j'ai lu tout ça et effectivement, il y a beaucoup de muscles et de costauds et de vocabulaire comme ça dans pas mal de ces bouquins. Pas dans absolument tous, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant, la partie jeunesse qui est très nombreuses. Il a écrit beaucoup de bouquins pour la jeunesse et il y en a un que j'ai depuis La Nuit des Temps, et je ne sais pas de quand je l'ai acheté. Il est dessiné par Philippe Lorrain, c'est un côté désuet, c'est vraiment ancien. Le dessin, c'était en 75. Je crois que j'avais acheté ça pour mes élèves quand j'avais des grandes sections de maternelle et que je leur lisais des histoires. C'est à peu près à cette époque-là. Je l'ai acheté pas longtemps après sa parution, L'Arbre qui chante de Bernard Clavel. C'est un très très beau livre pour enfants et c'est celui-là que je vais vous lire maintenant. Je vais le lire tout de suite sans pause musicale. Peut-être une au milieu, si il y aura peut-être une pause musicale au milieu. Eh bien, L'Arbre qui chante de Bernard Clavel, édition La Farandole 1967. Mais moi, j'ai eu une édition un petit peu plus récente de 1975. C'était un matin de janvier. Un de ces beaux matins blancs et secs, pareils à ces vieux montagnards qui ont du givre à leurs moustaches et des yeux pétillants de soleil. Il avait neigé toute la nuit à gros flocons serrés. Puis le jour venu, un grand souffle de vent du nord avait débarbouillé le ciel. Derrière la maison, la forêt qui commence au pied de la montagne s'était endormie dans un grand silence glacé. Entre les arbres, les ombres étaient bleus. Les sapins ployaient encore sous leur charge de neige. car le vent de l'aube n'avait soufflé que pour chasser les nuages. Isabelle et Gérard habitaient là, tout près du bois, dans la maison de leurs grands-parents. C'était une toute petite maison aux murs gris et aux volets verts. Elle se trouvait à l'écart du village que l'on devinait à peine ce matin-là, très loin, au bord de la rivière gelée. On ne voyait même plus le chemin qui court entre les champs et traverse la prairie. De la fenêtre, les deux enfants essayaient de le suivre du regard. Ils le trouvèrent très facilement jusqu'au premier tournant, près du gros érable mort depuis 2 ans et que le grand-père ne s'était pas encore décidé à couper. Mais plus loin, tout se confondait. Tandis qu'ils regardaient ainsi, le nez collé à la vitre, Isabelle et Gérard virent passer un oiseau, puis un autre, puis tout un vol qui se percha sur la treille, d'où tombèrent des paquets de neige. « Ils ont froid, dit Isabelle, il faut leur donner des graines ou du pain. » Elle prépara des graines et Gérard ouvrit la fenêtre. « Ferme vite, cria grand-père, tu vas faire entrer tout l'hiver dans la cuisine. » Les enfants se mirent à rire, comme si l'hiver pouvait entrer dans une maison. Isabelle jeta ses graines sur le sentier que grand-père avait balayé pour aller jusqu'au bûcher chercher du bois. Grand-mère se mit à tousser et souleva les cercles de fonte de la cuisinière pour enfourner une énorme bûche dans le foyer. Dès que la fenêtre fut refermée, 2 oiseaux quittèrent la treille pour venir picorer. Les autres semblaient inquiets, mais comme rien ne bougeait, ils s'envolèrent à leur tour, tandis que d'autres tombaient du toit tout droit, presque sans battre des ailes. « Ils n'auront jamais assez de graines, dit Isabelle. Il en vient de plus en plus. » « mais si, cria grand-mère. Si tu leur donnes tout, ce sont mes poules qui n'auront plus rien. »
Eh, si tu continues, tu finiras par attirer ici tous les oiseaux de la forêt, renchérit grand-père.
Oh. Isabelle se résigna et revint à la fenêtre. Elle resta un long moment à côté de son frère, essuyant la vitre quand la buée l'empêchait de voir. Soudain, elle empoigna le bras de Gérard en disant « Regarde, sur le chemin !» Gérard leva les yeux. Là-bas, plus loin que le gros érable mort, un animal curieux avançait dans la neige. Il ressemblait beaucoup au petit lapin mécanique que le Père Noël avait apporté à Gérard quelques années plus tôt.
Comme le jouet, il sautillait, vacillait de droite à gauche et s'arrêtait à chaque instant. Toujours comme le lapin, il était vêtu de poils gris et portait de longues oreilles qui se rejoignaient au sommet du crâne. Oh, cette apparition était surprenante, que les enfants oublièrent les oiseaux.
Ils restèrent bouche bée, observant sans mot dire cet animal étrange dont les yeux par moments lançaient des éclairs de lumière.
Quand le lapin qui marchait uniquement sur ses pattes de derrière eut atteint la haie bordant le jardin, les enfants ne verrent plus que sa tête.
« Ah, on dirait qu'il vient d'ici !» murmura Gérard.
« C'est vrai, il fait le tour du jardin !» Le lapin disparut et il y eut un long silence, un peu angoissant. Les enfants retenaient leur souffle, l'oreille tendue. Bientôt, des pas sonnèrent sur les marches de pierre et les oiseaux s'envolèrent si brutalement que les enfants sursautèrent.
« Vous n'avez rien entendu ?» demanda grand-père.
Les deux petits hochèrent la tête. « Qu'est-ce que ça peut bien être ?» dit grand-mère. « À cette heure-ci, le facteur est encore loin. » Les grands-parents n'avaient rien vu et les enfants n'osaient répondre. Ils ne pouvaient tout de même pas dire « C'est un lapin mécanique grand comme un homme qui arrive tout seul et bat la semelle sur le palier. » Il y eut encore un frottement contre la pierre, puis on entendit frapper à la porte. Les grands-parents se regardèrent, puis regardèrent la porte. Et enfin, comme on frappait plus fort, grand-père cria « Entrez !» La porte s'ouvrit lentement et ce fut tout d'abord une large bouchée de bouffées de bise qui pénétra dans la cuisine. Cette fois, c'était le lapin qui apportait l'hiver dans son poil gris. C'était bien lui qui se tenait là, debout sur le seuil, tout surpris par la chaleur et l'odeur du feu de bois où cuisait la pâtée des vrais lapins. Grand-mère se précipite pour refermer la porte. Et voilà que le lapin se met à parler.
« Bonjour, bonjour, dit-il, je viens très tôt, il faut m'excuser, mais... »
Les poils gris s'écartent à la hauteur du visage, de grosses lunettes paraissent, puis un nez tout rouge, puis des moustaches raides comme un balai de crin, puis un visage piqueté de barbe blanche pareil à celle de grand-père.
« Mais c'est Vincent Don !» s'exclame grand-père, « c'est Vincent Don !»
Et c'était vrai, c'était bien Vincent Don. Et ce fut seulement quand il eut ôté son bonnet à oreilles relevées et quitté sa pelisse, dont le col montait à hauteur de ses yeux, que les enfants eurent la certitude que le lapin mécanique était un homme. Ils ne l'avaient jamais vu, mais grand-père leur avait souvent parlé de ce vieil ami. Le père Vincent Don essuya ses lunettes, il essuyait les larmes qui coulaient de ses yeux en répétant « Je vous vois à peine. La chaleur après le froid me fait toujours pleurer et mes lunettes sont couvertes de buée. » Il n'y voyait pas, mais il pouvait parler et écouter. Bientôt, assis au coin du feu à côté de grand-père, il se mit à raconter des histoires de sa jeunesse. Grand-père en racontait aussi. Ils parlaient en même temps et personne ne les écoutait. Ils semblaient heureux tous les deux. Les enfants sont déjà retournés à la fenêtre, il n'y a plus de graines, mais quelques oiseaux s'obstinent à en chercher. Une ombre passe sur la neige, un gros oiseau noir descend pour aller se poser sur l'arbre mort. Gérard se retourne. « Grand-père, il y a un aigle sur l'arbre mort, viens vite voir grand-père » Grand-père ne bouge pas, mais Vincent Don se lève et rejoint les enfants. Ses lunettes rondes en fin propre sont sur son nez. Il dit « Ce n'est pas un aigle, c'est un corbeau et l'arbre est un érable. » Et il n'est pas mort. De son fauteuil, grand-père crie « Ah, il est mort depuis 2 ans et je l'abattrai dès que je pourrai. » « Je te dis qu'il n'est pas mort, affirme Vincent Don. Les arbres ne meurent jamais. »
« Ne raconte pas des choses pareilles, dit grand-père l'air surpris. Je t'assure que ça fait 2 printemps qu'il n'a pas bourgeonné. Je te dis qu'il est mort et bon pour le feu. »
Vincent Don les regarde tous et pourtant on dirait qu'il ne les voit pas. Il voit autre chose, très loin, bien plus loin que le bout de la plaine.
« Je vous répète que les arbres ne meurent jamais, dit-il, et je vous le prouverai en faisant chanter votre vieil érable.
Oh, » Grand-père paraît incrédule, mais il se tait. Vincent Don et son ami, sans doute, ne veut-il pas le contrarier. Les enfants se regardent, ont-ils bien entendu? Déjà, Vincent Don a regagné son fauteuil et repris le cours de ses histoires. Et il va rester là jusqu'à la tombée de nuit, partageant avec eux le repas de midi. Lorsqu'il s'en va, grand-père l'accompagne jusqu'à l'érable. Ils tournent tous deux autour du gros arbre, comme s'ils jouaient à la cachette, tout petit dans le crépuscule qui s'éloigne, dans le crépuscule qui éloigne tout. Et donne au paysage l'aspect d'une carte postale de bonne année. Lorsque grand-père rentre, les enfants se précipitent pour demander « Alors, qu'est-ce qu'il a dit ?» Vincent Don soutient que l'érable n'est pas mort. En tout cas, il m'a promis de le faire chanter. « Mais comment, grand-père, comment fera-t-il »
« C'est son secret, vous verrez plus tard. Je ne peux rien vous dire, puisqu'il ne m'a rien expliqué. » Il faut attendre.
Les enfants ont beau insister. Grand-père se tait. Le temps passa, la neige se mit à fondre et les pluies de printemps lavèrent sur les flancs de la colline les dernières traces de l'hiver. Les enfants avaient oublié le père Vincenton lorsqu'un soir, en rentrant de l'école, ils s'aperçurent qu'il manquait quelque chose au paysage. C'était le gros érable. À la place, il n'y avait qu'une large souche, quelques brindilles, quelques morceaux d'écorce et de la sciure qui ressemblaient à un petit tas de neige oublié de par le soleil. C'est peut-être grand-père qui a coupé cet arbre, dit Gérard. Il n'aurait pas dû, monsieur Vincenton avait promis de le faire chanter. Tu y crois ? Demanda Isabelle. Oui, parce que c'est monsieur Vincenton qui l'a promis. Mais grand-mère prétend que l'arbre mort ne peut plus chanter autrement que dans le feu. Oh, il ne faut pas qu'on le brûle, dit le garçon. Viens vite, viens vite. Ils se mirent à courir dans la maison. Ils posèrent en passant leur cartable au pied de l'escalier. Ils filèrent vers le bûcher, qui est une petite cabane de bois que grand-père a construite au fond du jardin. La porte était grande ouverte et la charrette arrêtée devant l'entrée. Les enfants coururent très vite. Lorsqu'ils arrivèrent, ils étaient rouges et essoufflés. Grand-père et Vincenton sortaient du bûcher. Un tronçon de l'érable était encore sur la charrette. Les enfants regardèrent Vincenton avec une lueur de reproche dans leurs yeux clairs, mais le vieillard sourit sous sa moustache. Il s'approcha de la charrette et se mit à caresser le tronc de l'érable comme il l'eût fait avec un chien. Les mains de Vincenton sont grosses, avec des doigts larges et épais, avec des ongles tout relevés et qui ont une drôle de forme. Quand Vincenton caresse le bois, on dirait qu'il le passe au papier de verre, tant ses paumes sont râpeuses. Lorsqu'il vous serre la main, on se figure toujours qu'il porte des gants de fer, comme on mettait les chevaliers du Moyen-Âge. Il caressa donc le bois et cligna de l'œil en disant « Ne vous faites pas de soucis, il chantera, je vous l'ai promis, je tiens toujours mes promesses. » Ah ah, ricana grand-père, il chantera dans le fourneau, exactement comme tous les arbres qui meurent. Le faire chanter comme ça, c'est facile. Grand-père devait plaisanter, pourtant Vincenton fit mine de se fâcher. Tais-toi donc, cria-t-il, tu n'y connais rien. Moi, je te dis qu'il chantera mieux encore que lorsqu'il vivait les pieds dans la terre et la tête au soleil. Mieux que les jours où il était tout chargé d'oiseaux et tout habité de vent. Les enfants écoutaient ce langage curieux. Comme ils semblaient douter de lui, Vincenton les prit chacun par un bras. Et il les serra fort avec ses grosses mains dures. Il serra très fort, presque à faire mal. Mais cette force qu'il y était en lui avait quelque chose de rassurant. Il retourna vers la charrette et continua de palper le gros tronc couché sur les planches. Il se penchait, tapotait du doigt, écoutait, se redressait en hochant la tête, exactement comme fait le docteur lorsqu'on est au lit avec une grosse fièvre. Mais Vincenton n'avait pas l'air inquiet. Il continua d'ausculter son arbre, répétant seulement de loin en loin. « C'est bien. » C'est très bien, il est sain, il chantera. Vous verrez ce que je vous dis, il chantera mieux encore que lorsqu'il avait des oiseaux plein les bras. Le lendemain, tout avait disparu. Il ne restait plus que le bûcher. Il ne restait plus dans le bûcher que quelques branches et un bon tas de sciure. Les enfants se mirent à chercher. Enfin, au grenier, ils finirent par retrouver l'érable. Mais cette fois, ils furent très déçus. L'arbre était méconnaissable, tout débité en grosses planches. Il avait vraiment l'air d'être mort. Monsieur Vincenton s'est moqué de nous, dit Isabelle, il ne fera jamais chanter cet arbre. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un peut faire chanter un arbre mort? Il faudrait un sorcier, et ce Vincenton n'est pas un sorcier. Bon, qu'en sais-tu? Isabelle regarda son frère, l'air effrayé. Tu crois qu'il serait sorcier? Fit-elle. Gérard prit à son tour un air important pour répondre. Ce n'est pas impossible, je crois savoir des choses, oh, des choses. En fait, il se vantait pour mieux paraître informé et plus débrouillard que sa sœur, car il ne savait rien de plus que vous et moi sur le père Vincenton. Mais le printemps est tout plein de vie et les enfants oublièrent très vite le vieil arbre. Avant la montée de la sève, grand-père était allé dans la forêt. Il avait rapporté deux petits érables qu'il avait plantés au bord du chemin de chaque côté de la vieille souche. À présent, ces petits arbres avaient des feuilles et c'était eux qui commençaient à chanter avec le vent venu du fond de l'horizon en poussant dans le ciel bleu de gros nuages blancs. Tout le printemps s'écoula, puis un jour de juillet, grand-père sortit la charrette du bûcher et descendit du grenier les plus grosses planches tirées de l'érable.
« À présent, en route, dit-il, pour l'atelier de Vincenton. »
Isabelle grimpa sur la charrette, grand-père se mit à tirer par le timon, tandis que Gérard poussait derrière. Ils marchèrent plus d'une heure pour gagner le village, une heure sous le gros soleil. Vincenton habitait tout au bout du pays. Une maison dont les fenêtres regardaient couler la rivière. Dès qu'il entendit les roues ferrées crisser sur le gravier de sa cour, Vincenton sortit sur le pas de sa porte. Il leva les bras dans un geste comique et s'écria « Diantre, voilà des clients sérieux depuis le temps que je les attendais. » Il portait une chemise claire et un tablier de toile bleue qui tombait jusque sur ses pieds. Ses manches relevées laissaient paraître ses avant-bras maigres. Ainsi, ses mains semblaient encore plus grosses. Il aida grand-père à transporter les planches jusqu'au fond d'une longue pièce un peu sombre où les enfants n'osèrent pas le suivre. Une odeur étrange venait jusqu'à eux et ils demeuraient sur place, se tenant par la main. Pourtant, Vincenton les fit entrer dans une autre pièce plus claire. Au plafond, le soleil reflété par la rivière jouait en vagues folles. « Vous me permettrez bien de terminer ce que j'ai commencé, » dit Vincenton. Grand-père approuva et le vieux bonhomme se remit au travail. Ses énormes mains, qui semblaient si maladroites, pouvaient manipuler les objets les plus menus et les plus fragiles. Vincenton expliqua qu'il polissait le rouage d'une serrure de coffret à secret. Il faisait tout en bois, même les serrures et les charnières. Pour lui, le métal n'était qu'un serviteur du bois. « Le bois, disait-il, c'est un matériau noble. » Vivant, toujours vivant. Le métal est bon à fabriquer les outils qui vous permettront de travailler le bois. Mais le bois, le bois! Quand il prononçait ce mot, ses yeux n'étaient plus les mêmes. Vincenton n'était pas un homme comme les autres. Il était amoureux du bois. Il en parlait vraiment comme d'un être vivant, comme d'une personne de sa famille avec qui il vivait depuis des années et des années. Avec les bois, il pouvait tout réaliser, de petits coffrets incrustés d'ivoire et de marqueterie compliquée, de petites tables dont les pieds étaient si minces que les enfants retenaient leur souffle de peur de les faire tomber. Les murs de son atelier étaient garnis d'outils posés sur les rayons ou suspendus à des râteliers. Il y avait des rabots de toutes dimensions et de toutes formes, des scies, des gouges, des ciseaux, des varlopes, des boîtes à coupe, des compas et bien d'autres instruments dont les enfants entendaient le nom pour la première fois. Et puis, Il y avait des pots de colle, des bouteilles de vernis, des pains de cire et du bois partout. Du bois de toutes les essences, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Comme Isabelle, qui est très curieuse, se dirigeait vers une petite porte et posait déjà sa main sur la poignée, Vincent Don se précipita. « Non, 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 dit-il, n'entre pas là. C'est dans cette pièce qu'est mon secret. » Isabelle pensa au cabinet de Barbe Bleue, mais elle se mit à rire. Il y avait longtemps qu'elle ne croyait plus à tout cela. « C'est mon secret, reprit Vincent Don. Tu le connaîtras quand tu auras entendu chanter ton arbre. » L'été passa trop vite, avec les vacances et les courses merveilleuses dans la campagne et la forêt. Les deux arbres plantés par grand-père poussaient bien. Les oiseaux s'y arrêtaient déjà. Vers la rentrée des classes, les feuilles commencèrent à jaunir et les grands vents d'automne les emportèrent loin. Les deux petits érables semblaient morts, mais Gérard et Isabelle savaient qu'ils venaient seulement de s'endormir pour l'hiver. À cause des devoirs toujours difficiles et des leçons à apprendre, les deux enfants avaient oublié le gros érable et la promesse du père Vincent Don. Un jeudi matin, quelques jours avant la Noël, les enfants comprirent dès leur réveil que la neige était revenue. Il y avait un grand silence tout autour de la maison et la lumière qui filtrait par les fentes des volets était plus blanche que celle des autres matins. Ils se levèrent très vite malgré le froid. Les oiseaux, dit Isabelle, il faut penser aux oiseaux. Elle allait ouvrir la fenêtre pour jeter des graines lorsqu'elle aperçut, hésitant sur un sentier tout blanc, le lapin mécanique. Vincent Don ! Cria-t-elle, c'est monsieur Vincent Don ! C'était bien lui, vêtu de sa pelisse grise et de son bonnet à oreilles, mais il portait sous son bras un long paquet enveloppé de papier brun. Le vieil homme approchait lentement, évitant les congères et cherchant avec peine le tracé du chemin. Il passa les deux petits érables que l'on devinait à peine dans la grisaille. Son bonnet dansa un moment au-dessus de la haie, puis disparut. « C'est lui !» répétaient les enfants. « C'est bien lui !» Ils ne savaient pas ce qu'apportait Vincent Don, mais leur cœur s'était mis à battre très fort. Dès que les semelles du vieil homme heurtèrent le seuil de pierre, Gérard courut ouvrir la porte. L'air qui entra en même temps que Vincent Don était tout piqueté de minuscules flocons blancs. Le feu grogna plus fort, puis ce fut le silence. Ils étaient là tous les quatre, à regarder le père Vincent Don et son paquet solidement ficelé. Vincent Don posa son paquet sur la table, ôta ses lunettes, les essuya longuement, se moucha, remit ses lunettes et s'approcha du feu en frottant l'une contre l'autre ses grosses mains qui faisaient un vrai bruit de râpe. Oh, « Il fait meilleur ici que dehors, » dit-il. Les enfants s'impatientaient. D'un côté de la table, ils regardaient le paquet sans oser y toucher. Le vieil homme semblait prendre plaisir à prolonger leur attente. Il les observait du coin de l'œil et adressait aux grands-parents des sourires complices. Enfin, il se retourna et dit « Alors, qu'est-ce que vous attendez pour l'ouvrir ? C'est tout de même pas à moi de défaire le paquet !» Quatre petites mains volèrent en même temps. Les nœuds étaient nombreux et bien serrés. « Prête-nous des ciseaux, grand-mère !»« Non !» dit Vincent Don. « Il faut apprendre la patience et l'économie. Défaites les nœuds et n'abîmez rien. Je veux récupérer ma ficelle et mon papier. » Il fallut patienter encore, se faire mal aux ongles, se chamailler un peu. Vincent Don riait. Les grands-parents, aussi impatients que les enfants, attendaient, suivant des yeux chacun de leurs gestes. Enfin, le papier fut enlevé et la longue boîte de bois roux luisant apparut. Elle était plus large d'un bout que de l'autre. Vincent Don s'en approcha lentement et l'ouvrit. À l'intérieur, dans un lit de velours vert, un violon dormait. « Voilà, dit simplement le vieil homme, ce n'était pas plus compliqué que ça. À part les cordes, le velours et les crins de l'archet, tout se trouvait au cœur de l'arbre. Oh, « Mon Dieu !» répéta grand-mère qui avait joint ses mains en signe d'admiration. « Mon Dieu, que c'est beau !»«
Oh, ça alors !» bégayait grand-père, « je te savais très adroit, mais tout de même !»
Le vieil artisan souriait. Il passa plusieurs fois sa main sur sa moustache avant de dire « Vous comprenez pourquoi je ne voulais pas vous laisser rentrer dans mon séchoir ? Vous auriez vu des violons, des guitares, des mandolines et bien d'autres instruments. Et vous auriez tout deviné. Et oui, je suis luthier. Je fais des violons. Et l'érable, voyez-vous, c'est le bois qui chante le mieux. » Sa grosse main s'avança lentement pour caresser l'instrument, puis elle se retira toute tremblante. « Alors, dit-il à Gérard, tu ne veux pas essayer de jouer ? Tu ne veux pas faire chanter ton arbre ? Allons, tu peux le prendre, il ne te mordra pas, sois tranquille. » Le garçon sortit le violon de son lit et le prit comme il avait vu les musiciens le faire. Il posa l'archet sur les cordes et en tira un grincement épouvantable. Grand-mère se boucha les oreilles tandis que le chat réveillé en sursaut disparaissait sous le buffet. Tout le monde se mit à rire.
« Eh bien, dit grand-père, c'est ce qui s'appelle chanter. »
« Il faut qu'il apprenne, dit Vincent Don, prenant l'instrument qu'il plaça sous son menton. » Et le vieux luthier, aux mains énormes, se mit à jouer. Il jouait en marchant lentement dans la pièce, en direction de la fenêtre. Immobile, les enfants regardaient et écoutaient. C'était une musique très douce, qui semblait raconter une histoire pareille à ces vieilles légendes venues du fond des âges, comme le vent et les oiseaux qui arrivent en même temps du fond de l'horizon. Vincent Don jouait, et c'était vraiment l'âme du vieil arbre qui chantait dans son violon.
Thank you.
voilà, c'était l'arbre qui chante. Je crois que c'était le premier ouvrage pour enfants de Bernard Clavel. Et c'est un très très beau livre, j'espère que vous l'avez apprécié. Le violon, il n'y avait pas que du violon, mais c'est une grande compositrice tatare qui est née à Tristopol en 1931 et qui est morte en Allemagne en 2026, il y a très peu de temps. Et c'était le quintet pour piano, pour deux violons, pour viol et violoncelle. Et c'est paru en 1957. C'est Larghetto Sensibile que je vous ai passé. Voilà, c'est une grande compositrice que j'aime beaucoup personnellement. Sofia Gubaidulina, G-U-B-A-I-D-U-L-I-N-A. Et cet extrait du disque In the Mirror, qui est paru en 1995 et réédité en 2002. Et bien maintenant, une petite chanson pour enfants du groupe Chevance, Vivre. C'est le titre, enfin, c'est pas le groupe, c'est le label Chevance, Outre Musique pour Enfants, 1974-1985. J'en ai déjà passé quelques titres à l'émission précédente. Et là, Vivre par le groupe Organon. Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître, ni publicité de la Fédération anarchiste 89.4. Des cailloux dans l'engrenage, émission hybride numéro 23 du 21 juillet 2026. Clavel par Ragon.
Si grand, si beau, et notre monde, monde est si vaste, vaste, si vaste le bord des mers, mers, que nous pouvons tous, chaque nuit, nuit, nous allongeant côte à côte sur les sables d'or, chanter les eaux étoilées. Que c'est beau de vivre, Taranta Babu, que c'est beau de vivre. Comprenant le monde comme un livre, le sentant comme un chant d'amour, s'étonnant comme un enfant, vivre. Vivre, un à un, et tous ensemble. Comme on tisse une étoffe de soie, vivre, comme on chante en chœur, un hymne à la joie. Vivre. Et pourtant, quelle drôle d'affaire, Taranta Babu. Quelle drôle d'histoire. Que cette chose incroyablement belle, que cette chose indiciblement joyeuse soit tellement dure aujourd'hui, tellement étroite, tellement sanglante, tellement dégoûtante.
Et voilà, c'était Outre Musique pour les enfants, la belle Chevance. C'était le groupe Oregon Vivre. Et bien, maintenant, alors évidemment, j'en ai prévu pour beaucoup trop longtemps, mais le hibou qui avait attrapé la lune, un livre pour enfants, je pense que j'aurai pas le temps de le lire, mais je vais essayer L'Hercule de Foire, parce que ça, c'est l'éloge du muscle, et c'est quand même ce qui, ce qui ne passe plus de la même manière en 2026. Voilà, je vais vous lire le texte que Michel Ragon a choisi pour parler de l'éloge du muscle par Clavel, l'Hercule de Foire. Durant plus de 15 jours, ils parcoururent la région. Pierre s'était rapidement habitué à l'évasion aérienne. Le premier soir, au moment d'annoncer ce numéro, Kid l'avait seulement regardé. Pierre avait levé les yeux vers le trépied monté au centre de la place et il avait souri. Kid avait compris. Il avait présenté Pierre comme le roi de l'évasion et il n'avait plus jamais été question entre eux de leur dispute. Sur des esplanades, des champs de foire, dans des petites salles des fêtes, dans des cours d'hôtels et des granges, ils donnaient à eux deux de véritables spectacles. Kid parlait beaucoup moins que dans les grandes villes où le public se renouvelait constamment. Il invitait les hommes forts à venir enchaîner le roi de l'évasion. Pierre, qui travaillait torse nu, avait le dos et les bras couverts de bleu et semé d'écorchures qui se rouvraient à chaque séance. Mais cela aussi faisait partie du spectacle. La plupart du temps, les gens étaient brutaux. Ils faisaient l'impossible pour serrer les chaînes très fort. À une séance, une femme se présenta et ce fut ce jour-là que Pierre souffrit le plus. On l'attachait, on bouclait les cadenas, on le pendait par les pieds et dès que Kid avait terminé son boniment, il devait se démener, faire glisser ses chaînes. Pas trop rapidement, libérer ses poignets, remonter ensuite à la manière des chats que l'on tient par les pattes de derrière pour dégager ses pieds et se dépendre. Kid avait eu raison de lui dire qu'on s'habitue très vite à rester la tête en bas. À présent, il ne voyait plus de papillons noirs et n'éprouvait jamais aucun malaise. Les chaînes le meurtrissaient toujours, mais seules les chevilles restaient douloureuses. Au début, il avait été souvent réveillé dans la nuit par des brûlures qui traversaient ses muscles et semblaient se prolonger à l'intérieur même de ses os. Peu à peu, il s'était accoutumé à cela et quand il arrivait d'être encore réveillé par une douleur, on évoquait l'usine, il se contraignait à l'imaginer, à refaire par la pensée l'éternel geste que certains vieux manœuvres répétaient depuis 40 ans. Alors, essayant vraiment de calculer le nombre de mouvements identiques qu'un homme pouvait accomplir dans une vie, il se rendormait avec l'idée qu'il était heureux en compagnie de Kid. Le temps passait très vite de ferme en hôtel, du café en place publique, avec de loin en loin la rencontre d'une fille très fière de se donner à un artiste. Je saute quelques passages. Le matin de la foire, lorsqu'ils descendirent de l'autocar qui les avait amenés, ils faisaient un temps maussade et lourd. Le vent du midi, qui avait couru toute la nuit, s'était cassé le cou à l'aube, laissant le ciel barbouillé de grisailles immobiles. Ça risque d'être la flotte avant midi, déclara Kid. Faut se manier de ramasser du pognon si on veut pas prendre la rincée. Ils installèrent leur matériel, montèrent le tire-pied, et le petit Hercule entama son intarissable boniment. Dès le début, Pierre remarqua un groupe d'hommes qui semblaient décidés à s'amuser à leurs dépens. Ceux-là, grogna Kid, je les ai repérés, faut s'en débarrasser tout de suite, sinon c'est foutu. Il y avait parmi ces gens une espèce de colosse, un peu gras, mais puissamment charpenté et qui riait très fort. Kid s'approcha de lui avec une mimique d'admiration. Bonsoir, lança-t-il, tu dois être plus fort comme un bœuf. Toi, 20 kilos à deux mains, tu peux les lever ? Le grand gaillard répondit, mais sa voix fut couverte car les autres criaient tous en même temps. La lutte, la lutte ! Non, dit Kid, on ne peut pas lutter sur du macadam. On peut lutter n'importe où, dit l'homme, seulement faut pas être un dégonflé. Kid fit rapidement des yeux le tour du cercle de curieux d'où s'élevaient déjà quelques coups de sifflet. « C'est bon » cria-t-il, « c'est toi qui l'auras voulu !» L'homme avança, mais au moment où Kid allait enlever son blouson, il l'arrêta en disant « Non, non, je ne veux pas lutter avec un homme que votre âge, avec un grand !» Il désignait Pierre qui se tenait immobile, torse nu, à côté des valises. comme l'homme approchait, Pierre recula vers le trépied. « Non, dit-il, on lutte pas là-dessus !» Le public commençait à manifester son mécontentement et Kidd tenta d'obtenir le silence pour expliquer que son partenaire était un junior et que l'homme de 30 ans qui le provoquait devait peser au moins 30 kilos de plus que lui. Je saute des passages. Donc il y a eu le début de la lutte. « T'abandonnes ?» demanda Kidd. « Non !» rugit l'homme. « Alors, comme un ouvrier qui voudrait enfoncer dans la terre un énorme piquet, Kidd frappe deux fois le bitume avec le crâne du forgeron qui essaie enfin de se protéger avec ses mains. Tout le monde a pu entendre sonner les coups. Kidd ouvre les bras et le grand corps se plie, se casse comme une poupée désarticulée pour tomber sur le sol, les bras en croix et les jambes écartées. La foule, un instant silencieuse, se met soudain à bouillir. Des gens applaudissent, d'autres sifflent, d'autres encore crient à l'assassin. Et Pierre pense un instant que tous les spectateurs vont se battre. Le cercle se déforme, craignant de le voir se disloquer. Kidd se remet à gesticuler et à tourner en réclamant le silence. Dès que les cris diminuent, il recommence son boniment. « C'est la lutte, mesdames, messieurs, c'est les risques du métier !» Il n'a pas de mal, il est fort comme un bœuf. Le cercle se rompt du côté où se tiennent les amis du forgeron et un garçon arrive portant un arrosoir plein d'eau. Pierre, qui s'était penché sur l'homme, s'écarte d'un pas. Kidd s'est emparé de l'arrosoir et verse de l'eau en douche sur la tête de l'homme qui remue, s'ébroue, se frotte le crâne. Assis au centre d'une large flaque, il reste un moment à se demander où il est. Il grimace, les gens commencent à rire.
« Va, Dieu !» grogne le forgeron. « Tu m'œilles !»«
Excuse-moi, dit Kidd, mais t'es trop fort pour qu'on puisse te faire des cadeaux. » Voilà, c'était un extrait de l'Hercule sur la place de Clavel. Et maintenant, qu'est-ce que je vais vous mettre chanson pour contenter celui qui me tourmente, allez, une poétesse de la Renaissance, Pernette du Guillet.
Chaste amour sous mon aisselle, viens tous les jours à s'allumer. Me devez-vous bien aimer? Quand vous me voyez toujours celle qui pour vous souffre son mal, celle me laissant par lui consumer. Devez-vous bien aimer? Quand vous voyez que pour moi belle, je ne prends la 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 la
bien maintenant pour introduire le hibou qui avait avalé la lune, texte de Bernard Clavel pour les enfants, illustration de Jacques Aslanian. C'est édité dans la collection Les Premiers Temps chez Clancier Guénaud et c'est paru en 1981. C'est un livre aussi que j'avais chez moi. Eh bien, pour présenter ça, le label Chevance, outre musique pour les enfants, Anne et Gilles, les hiboux. Non, je me suis trompée, pardon. Anne et Gilles, les hiboux, eh bien, je ne sais plus ce que j'ai. Vous êtes sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste et je me suis trompée de platine des cailloux dans l'engrenage, émission hybride. Et alors, les hiboux, c'est le numéro 16. Et voilà, vous savez tout et c'est la première platine. Allez.
Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher les poupous de leurs enfants, leurs petits choux, en les tenant sur les genoux, leurs yeux d'ovale des bijoux, leurs petits durs comme cailloux. Ils sont doux comme des joujoux, mais oui, point de genoux. Votre histoire se passez-vous chez les Zoulous, les Andalous, ou dans la cabane bambou, à Moscou ou à Tombouctou, en Anjou ou dans le Poitou, au Pérou ou chez les Mandchous. Pas du tout, du tout, pas du tout, c'était chez les fous. Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher les poux de leurs enfants, leurs petits choux, en les tenant sur les genoux, leurs yeux d'ovale des bijoux, leurs petits durs comme cailloux. Ils sont doux comme des joujoux, mais où hiboux, point de genoux.
Le hibou qui avait avalé la lune. Texte pour enfants de Bernard Clavel. Il y avait une fois dans une immense forêt un gros hibou qui s'appelait Victor. Victor habitait le plus vieux chêne de la forêt, un chêne énorme et noueux dont un orage avait un jour arraché une branche. À l'endroit de la cassure, la pluie et les insectes avaient creusé un trou profond et c'est dans cette petite grotte que Victor venait passer ses journées à dormir. La nuit, le hibou quittait sa demeure pour s'en aller chasser les mulots, les musaraignes et les petites souris. Comme Victor n'avait pas bon caractère, les autres oiseaux de la forêt ne l'aimaient guère. Oh, il n'était pas méchant, non, mais un peu grincheux et surtout très orgueilleux. Il ne cessait de répéter « Moi, Victor, je suis le plus beau, je suis le plus fort, le plus intelligent, je suis le meilleur chasseur et le meilleur pêcheur qu'on ait jamais connu de mémoire de hibou. Je suis capable d'attraper n'importe quel animal, aussi bien dans l'eau que sur terre et dans les airs. » Les autres oiseaux riaient en se poussant de l'aile et en murmurant « Ce que l'on n'a jamais vu de mémoire d'oiseau, c'est un personnage aussi plein de prétentions. Que pourrions-nous bien faire pour qu'il perde un peu de sa superbe ?» Or, une petite chouette rusée qui s'appelait Minerve l'aborda un beau soir et lui demanda « Dis donc, monsieur Victor, est-ce que vous connaissez le grand étang des Saules ?» Le hibou haussa les épaules d'un air de mépris et répondit « Quelle question stupide, bien entendu que je le connais, puisque je connais tout !»« C'est vrai, fit la petite chouette, excusez-moi, mais dites-moi un peu, est-ce que vous savez qu'il y a dans cet étang un énorme poisson lune que personne n'a jamais osé attraper ?»« Ah, oh, Victor avait vaguement entendu parler de poisson-lune, mais il ne savait rien de cette espèce. Seulement, pour ne pas avoir l'air d'ignorer quoi que ce soit, il répondit « S'il y avait un tel poisson dans l'étang des Saules, je l'aurais mangé depuis longtemps. » « Vous savez, dit Minerve, il n'est là que depuis une semaine. Et comme il sait déjà que vous êtes le plus fort et le plus malin que tout le monde, dès qu'il vous voit arriver, il se cache. » Le hibou se mit à rire en ébouriffant ses plumes pour se donner de l'importance et il déclara « Viens avec moi, ma petite, et tu verras comment un hibou intelligent capture un poisson-lune. » Tandis qu'il parlait ainsi, tous les oiseaux de la forêt les écoutaient cachés dans les feuillages. C'est que la petite chouette les avait invités à venir s'amuser un peu. Minerve et Victor s'envolèrent en direction de l'étang des Saules. Ils s'arrêtaient souvent sur une branche pour tendre l'oreille. Plusieurs fois, la petite chouette murmura. « Voyons, monsieur Victor, essayez donc de faire moins de bruit avec vos ailes. » Et le gros hibou grognait. « Ne t'inquiète pas pour moi, je connais mon métier de chasseur. » Les autres oiseaux suivaient de loin, ils prenaient tant de précautions que le bruit de leur vol se confondait avec le murmure du vent dans les branches. Pas le moindre cri, même la pie, si bavarde, était muette comme une carpe. La chouette et le hibou arrivèrent bientôt en vue de l'étang, là-bas, très loin derrière la forêt, la lune bien pleine se levait lentement. Comme l'eau de l'étang était à peine parcourue de vagues très lentes, le reflet de la lune se trouvait légèrement déformé. Il s'allongeait par moments et prenait l'allure d'un gros poisson ventru. « Regardez !» murmura la petite chouette en collant son bec à l'oreille du hibou. « Vous le voyez là, en plein milieu ?» Victor cligna de l'œil d'un air malin et s'avança sans bruit dans les roseaux, puis... Prenant soudain son vol, il piqua droit sur le reflet. Il y eut un éclaboussement d'eau et de lumière, puis, alourdi, le hibou revint vers la forêt. À la surface de l'étang, il n'y avait plus le gros reflet de la lune, mais une multitude de vaguelettes lumineuses qui faisaient comme un semis d'or fin. « Tu vois, dit Victor, ce n'est pas plus difficile que ça. » Mais sa voix était curieusement enrouée. Il se posa sur la cime d'un peuplier pour se faire admirer et tous les oiseaux qui n'avaient plus aucune raison de se cacher se mirent à voler autour de lui en riant. Car il y avait vraiment de quoi rire. Ah oui, vous pouvez me croire, c'était amusant de voir ce hibou devenu soudain énorme et tout rond, ce hibou dont les gros yeux avaient pris la luminosité et la couleur de la lune. Tout penaud, le hibou regagne son trou et depuis lors, quand il met le nez à sa fenêtre pour respirer l'air de la nuit, on ne voit plus que ses deux yeux immenses qui brillent comme deux éclats de lune.
Est-il plus parfait de corps? A-t-il singulière beauté? Soit par devant ou par dehors, en a-t-il la spécialité? Regarde bien par loyauté, si corps de femme est moins joli, si tu veux dire vérité, tu le jugeras plus poli. On voit volontiers beaux chevaux, belles maisons, beaux ornements, beaux bois, beaux prés, beaux monts, beaux veaux, beau soleil et beaux éléments. Mais tant de jolis parements, tant de vertus en femme luisent, que les yeux humains jeunement le plus grand bien du monde y puisent. Femme, corps de déesse, corps de toute beauté minière, il doit bien être sans rudesse, préféré en toute manière. De beauté porte la bannière, à lui n'est homme comparé. s'il est beau devant ou derrière, femme la nourrit et parée. Les hommes des champs et des rues sont plus durs, plus grands et plus gros, mais c'est pour mener la charrue que Dieu leur a donné tels os, telles épaules et tel dos, et beauté de femme gardée. Tous les arbres qui sont au bois n'ont été faits pour regarder. Femme et l'Orion d'humain plaisir, le midi de mondaine joie, le lieu, le séjour, le loisir, le puits d'amour et la montjoie. Femme tout bien au monde envoie, si elle n'était sûrement, je crois, l'homme serait en voie de finir douloureusement. Femme et secours contre faiblesse, joie contre mélancolie, courtoisie contre rudesse, sens et avis contre folie. Nature en femme étant polie, si je ne l'ai dit, je le dis, tant gracieuse et tant jolie, qu'elle est terrestre paradis.
C'était Chantal Grimm qui chantait « Marie de France, l'homme est-il plus parfait ?» Voilà la question que se posait cette poétesse du XVe siècle. Bon, l'émission est quasiment terminée. C'était une émission hybride pour adultes et pour enfants. J'ai eu le temps de lire deux albums jeunesse de Bernard Clavel et puis j'ai pas eu le temps de lire beaucoup de textes que présentait Michel Ragon, mais peut-être que je le ferai à une autre émission plus tard. Donc, pour adultes et pour enfants, j'espère que même les grandes personnes ont eu plaisir à écouter ces beaux contes pour enfants. Oui, Bernard Clavel est un bon conteur pour enfants. Je n'apprécie pas tous ses livres, mais il y en a quelques-uns. Bon, voilà, ça dépend. Je trouve que c'est irrégulier, mais on a le droit d'avoir son opinion et son ressenti, surtout tant d'années plus tard. Le monde a changé et le regard a évolué vis-à-vis du muscle. Et pourtant, il y a une nouvelle fronde des masculinistes, moi, qui me terrorise. Mais il ne faut pas baisser les bras. Et surtout quand on est anarchiste sur Radio Libertaire. Voilà, c'est terminé. Je vous fais écouter pour l'hommage à Thierry Poré, qui était l'homme blues de Radio Libertaire, hein, une autre chanson qu'il aimait beaucoup, enfin une autre blues woman, une musicienne de blues qu'il aimait beaucoup, c'était Memphis Minnie.
Now I'm singing a blue song, much bluer than blue. I lost a friend I thought good and true, without any warning, since yesterday morning. I'm queen of the blue. Now my eyes are all glassy, but I ain't had a drink. Spent 24 hours just trying to think. Why did he leave me? Why did he leave me? Bluer than blue. Is like a disease, makes you grieve. Lose all ambition, have run down condition. My mind's insane, my heart's aflame. I miss him so. Oh, yes, I know. No other love song will I ever sing. Blues in my heart will always ring. Why did he leave me? Why did he leave me?
Voilà, l'émission des cailloux dans l'engrenage hybride pour petits et grands est terminée. Et maintenant, dans quelques minutes, très peu de minutes, place au Club Ferré. Au revoir.